Crise hospitalière, fermeture de lits, manque de personnel. Voici ce qu'on entend de nos jours quand on parle du système de santé. Mais aujourd'hui, je vous propose d'en savoir un peu plus sur le quotidien soignant et ce qu'il se passe entre nos murs. Des débuts à l'hôpital aux premières désillusions, la quête de cette juste distance et le rapport que l'on a à la mort. Sans oublier cette fameuse vocation soignante dont on parle tant. Alors, à quoi ressemble vraiment le quotidien des soignants? Je m'appelle Laura Boujna et vous écoutez Paroles de Blues, un podcast produit par MedCheck Studio et écrit par Emma Vuagnou, infirmière en réanimation. Épisode 3. Depuis plusieurs mois, un sentiment nouveau prend de plus en plus de place dans mes journées de soignant. Un mélange entre la sensation d'être submergée, mélangée à l'idée que je ne suis finalement pas à la hauteur de tout ça. Et surtout le pire, l'impression de m'être contentée du minimum tout en prenant en compte le temps dont je disposais. Lien direct avec la crise hospitalière dont on parle depuis quelques années déjà. Voici la pensée qui me vient pour me rassurer lorsque je reprends ma voiture avec l'impression erronée de ne pas en avoir fait assez. Ils sont tous, toujours vivants. L'idée n'était pas de faire un état des lieux de ce qu'est l'hôpital public ou privé. Pourquoi ? Parce que tout simplement il y aurait beaucoup de choses à dire, et surtout parce que je n'ai pas de regard omniscient et que la réalité de mon service n'est pas celle d'un autre. Même si beaucoup sont comme le mien, en souffrance. D'ailleurs, j'ai plutôt de la chance. Je suis dans un service qui tourne encore et dans lequel on a quelques moyens, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'endroits. Pourtant, il existe un véritable mal-être dans les équipes, et je vois à quel point les conditions d'exercice se dégradent en peu de temps. L'idée de cet épisode est surtout de vous montrer les impacts que cela peut avoir sur la prise en soins des patients de façon générale, mais aussi sur la perception que l'on a de notre travail en tant que soignant, ainsi que les conséquences psychologiques qui pourraient expliquer le départ de nombreux d'entre nous. Quand j'ai commencé à m'intéresser au métier d'infirmier, avant de me lancer dans la formation, les soignants que je rencontrais me disaient que l'infirmier était un peu comme le coordinateur de la prise en charge du patient, dans le sens où c'est lui qui met en lien les actions soignantes et sociales autour de ce dernier, tout en ayant un point de vue omniscient sur la prise en soin. On est finalement un peu la personne ressource de tous ces intervenants. Pour être concrète, si je devais parler de mes journées de travail, ce serait bien sûr donner les médicaments, gérer les perfusions, surveiller l'efficacité des traitements, surveiller d'éventuelles complications liées au traitement, faire des prises de sang, préparer les différentes interventions ou examens, anticiper un éventuel retour à domicile que ce soit sur le plan administratif ou paramédical, répondre aux besoins du patient en sollicitant différents intervenants comme le kinésithérapeute, l'orthophoniste ou le diététicien. Bref, tout un tas de choses qui répondent aux directives données par l'OMS. Tout ça, sans oublier le bon maintien du service. Par exemple, j'ai besoin de médicaments pour travailler, cela demande à ce que je prépare des piluliers des patients, que je fasse les commandes et que je gère les stocks, sans oublier toutes les tâches administratives liées aux dossiers de patients ou aux soins. Commander les transports, solliciter les acteurs nécessaires à la sortie et préparer les dossiers. Ah oui, pardon, il y a aussi le chariot d'urgence à vérifier, les péremptions de matériel à faire, le frigo des médicaments à dégivrer, mais il y a aussi les familles qui ont besoin de nouvelles, d'explications ou d'un accompagnement et qu'on n'a malheureusement pas toujours le temps d'offrir. Et ça, c'est vraiment ce qui me dérange le plus. Toutes ces petites tâches, elles s'invitent dans notre journée de façon plus ou moins prévue. Le téléphone sonne, les visites viennent et les autres soignants ont besoin d'informations sur les patients. Finalement, on est constamment sollicité et interrompu dans nos tâches et au-delà du risque d'erreur, il y a aussi une perte de temps considérable de quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, et ce, tout au long de la journée. Cette charge de travail s'étend sur 8, 10 ou 12 heures. Et je peux vous assurer que ce n'est pas toujours suffisant. Surtout quand il manque du personnel ou quand la personne qui travaille avec vous n'est pas du service parce qu'elle vient remplacer. S'ajoute à cela la fatigue, mais aussi le stress d'oublier quelque chose et parfois, dans des cas un peu plus extrêmes, un sentiment de surmenage. Bien sûr, la priorité de notre travail, c'est le patient et les soins qu'on doit lui procurer. Alors, tout le reste, parfois, ça passe à l'as. Sauf que tout est important. Et on ne peut pas toujours repousser une commande de médicaments ou la préparation des dossiers de sortie. L'accompagnement des étudiants ou des nouveaux professionnels aussi est souvent mis au second plan. C'est triste, mais c'est une tâche de plus dans la longue liste des choses à gérer. Ce n'est pas toujours un manque d'envie ou de pédagogie, c'est aussi et surtout un manque de temps. Alors que du temps, c'est tout ce dont une personne a besoin pour apprendre correctement. Cette charge de travail empêche certaines prises en charge d'être réellement efficaces et donc allonge le temps d'hospitalisation. Quand je travaillais de nuit, j'avais parfois un peu plus de temps à consacrer aux patients. Le service était plus calme, du fait qu'il n'y ait plus toutes les tâches annexes et les sollicitations qui nous bloquaient dans l'avancée des soins en journée, ce qui nous permettait d'offrir ce temps d'écoute aux patients. Après plusieurs mois à travailler de nuit, j'ai remarqué que ces quelques minutes de discussion permettaient plusieurs choses. Dans un premier temps, on tissait une véritable relation avec le patient, grâce à l'échange, ce qui favorisait la confession et donc un meilleur accompagnement. De plus, on soulageait certains maux que l'on aurait tendance à apaiser via les médicaments, toujours par manque de temps. Je pense à l'angoisse, par exemple, qui aurait parfois juste besoin d'explications ou de réassurance. Enfin, la relation que l'on crée avec le patient permet de le faire adhérer encore plus au projet de soins et donc de faciliter la prise en charge. Ces moments d'échange sont ceux que j'ai préférés lors de mes premiers pas en tant qu'infirmière. Aujourd'hui, ça me manque de ne plus avoir ce temps à partager avec mes patients. J'ai la sensation de ne plus vraiment les connaître aussi bien, mais surtout de ne plus pouvoir me le permettre. Car cela compromettrait la bonne tenue du service ou la réalisation des soins en temps et en heure. Ce temps relationnel est la première victime du manque de moyens. Il est peu reconnu par les autorités car peu rentable. Sauf que, au-delà de l'impact que cela peut avoir pour le patient, il est important d'avoir conscience que cela affecte aussi les soignants. En effet, je connais peu de soignants qui ont choisi cette voie professionnelle seulement pour l'aspect technique, en évinçant totalement l'aspect relationnel. Pour certains, ce constat qui place la technique et la rentabilité au-dessus du relationnel et de la qualité est trop difficile à accepter, ce qui explique le départ de nombreux soignants vers d'autres carrières ou modes d'exercice. Pourquoi ce titre ? Ils sont toujours tous vivants. Tout simplement parce que sur ces périodes de rush où la charge de travail est énorme et où l'on manque de personnel, la seule priorité ce n'est plus de prendre soin d'eux, mais seulement de les maintenir en meilleure santé ou du moins faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de problèmes que la veille. Ce constat est difficile à faire car il donne l'impression de se contenter du minimum en y laissant pourtant une énergie folle, allant jusqu'à l'épuisement physique et psychologique. Pourtant, c'est la vie de patient que l'on a entre nos mains. Et elle vaut bien plus que les moyens qu'on nous donne pour en prendre soin. En plus de ne pas prendre en soin les patients correctement, on détruit notre santé. Expliquez-moi où est la rentabilité là-dedans. C'est triste. C'est énervant. Parce que je n'ai pas choisi le métier d'infirmier juste pour maintenir des gens en vie. Je l'ai choisi pour offrir à mes patients le réconfort dont ils ont besoin. Alors je comprends de plus en plus ceux qui décident de claquer la porte et de ne plus accepter de travailler dans ces conditions. Tous les jours ne sont pas comme ça. Il y en a où l'on trouve le temps d'offrir une douche chaude à un patient, où l'on arrive vraiment à discuter avec eux. Il y a des jours où on arrive à anticiper les dossiers et à mettre en place les moyens pour que les patients soient le mieux pris en charge possible. Sauf que ceux-là, ils sont de moins en moins nombreux. Ils sont toujours vivants. Je l'ai entendu plusieurs fois aux transmissions quand on me demande comment s'était passée la journée. Je sais que quand j'entends cette phrase, la personne que j'ai en face de moi fait une fois de plus le douloureux constat qu'aujourd'hui, ça n'allait pas mieux. Cet épisode ne porte pas forcément de bonnes ondes, mais je pense qu'il est nécessaire de partager ce ressenti que je sais n'est pas seulement le mien. J'ai la sensation qu'on a une vague idée du pourquoi les infirmiers quittent le navire sans vraiment mesurer l'ampleur des tâches qui nous incombent. Souvent, j'entends les patients ou les familles me dire qu'il leur aura fallu être hospitalisés pour comprendre combien l'hôpital était en souffrance. Mon cadre de santé disait qu'on ne pouvait pas faire une omelette sans casser des œufs. On ne peut pas maintenir un service quand on est en sous-effectif avec des patients de plus en plus lourds et nombreux. Malgré la fermeture des lits, il existe toujours des personnes malades et qui ont besoin de soins. J'espère que d'ici quelques années, on prendra conscience de la réalité de ce qui se passe dans les hôpitaux et qu'on agisse pour protéger ces personnes malades et ceux qui en dédient une partie de leur vie à en prendre soin. On sait tous que l'on aura un jour besoin du milieu de la santé. Alors, à notre tour d'en prendre soin. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner, sans oublier de nous couvrir d'étoiles. Pour d'autres podcasts autour de la santé, rendez-vous sur medcheckstudio.com. Prenez soin de vous et à bientôt.